Afrique, les infos à Washington.
Eric Manilakiza, 13h, temps universel. Bienvenue à ce journal. Le Cameroun et le Nigeria promettent de collaborer pour lutter contre Boko Haram. Le point avec Camille Gros-Didier.
Le président camerounais Paul Biya et son homologue nigérian Muhammadu Buhari, en visite au Cameroun, se sont publiquement engagés à collaborer pour juguler la menace de la secte islamiste nigériane Boko Haram. Le Cameroun et le Nigeria sont tous deux membres de la commission du bassin du lac Tchad, composée en outre du Tchad, Niger et de la Libye, qui cherchent à opérationnaliser une force de lutte contre Boko Haram. La milice djihadiste suscite par ses massacres au Nigeria, au Tchad et au Cameroun, ainsi qu'au Niger, un climat d'insécurité et d'instabilité inégalé. Depuis la mi-juillet, près d'une soixantaine de personnes ont été tuées dans une demi-douzaine d'attentats suicides.
Camille Gros-Didier, à propos justement de cette visite du président nigérien au Cameroun, le professeur Eric Mathias Wananguini de l'université Yaoundé 2 analyse les objectifs du nouveau leader nigérien.
Il s'agit pour le nouveau leader nigérien de discuter directement avec son homologue camerounais, le président Paul Biya, de manière à évaluer l'ensemble des relations Cameroun-Nigéria. Bien entendu, l'un des points intéressants qui sera particulièrement suivi est ce que les deux chefs d'État vont dire de leur vision de la crise sécuritaire attachée à l'action de Boko Haram dans le contour du lac Tchad et de la manière dont les deux pays associés au Tchad et au Niger pourraient coopérer pour lutter contre ce phénomène d'insécurité.
Le professeur Eric Mathias Wananguini de l'université Yaoundé 2. Au Burundi, le nouveau bureau de l'Assemblée nationale est maintenant connu. L'ancien président du parti CNDD-FDD, Pascal Nyabenda, est élu président de l'hémicycle de Kigobe pour 5 années. L'ancien rebelle Agathon Rwasa occupe la première vice-présidence, tandis que le ministre Edouard Ndouimana est deuxième vice-président de l'Assemblée. L'Assemblée nationale est mise en place après des élections controversées. Elles ont été jugées non crédibles par les Nations unies et plusieurs gouvernements et organisations occidentaux, dont les États-Unis et l'Union européenne. L'ensemble des opposants et la société civile, dont Agathon Rwasa, avait dit boycotter les élections législatives et communales du 29 juin et la présidentielle du 21 juillet. Mais la Commission électorale nationale indépendante CENI avait maintenu leur candidature. Agathon Rwasa avait expliqué lundi qu'il voulait jouer le jeu pour aider à sortir son pays de la crise, un choix qui crée des remous dans l'opposition. Toujours au Burundi, certains leaders de l'opposition et de la société civile se réunissent depuis hier en fin de la soirée dans la capitale éthiopienne Addis Abeba pour des entretiens avec l'Union africaine sur la crise politique dans leur pays où le président Pierre Nkurunziza a remporté un troisième mandat controversé et jugé non crédible par l'ONU et l'EUAC, l'East African Community, Marie-Claire Gibourg.
Les principaux partis d'opposition ont boycotté la présidentielle du 21 juillet pour des raisons d'un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza en violation de la Constitution et de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Dans sa facilitation, la communauté est-africaine n'a pas réussi à négocier une solution à la crise. Muhoozi Innocent, directeur général de la radio Renaissance indépendante, détruit le lendemain de l'échec d'un coup d'État militaire, dit que les dirigeants de l'opposition sont à Addis Abeba pour discuter probablement l'idée d'un gouvernement d'union nationale et éventuellement la tenue d'élections libres et équitables. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Deux figures du MSD, le Mouvement pour la solidarité et la démocratie, Alexis Sidounidje et François Nyamoya, respectivement président et secrétaire général du parti, ont été interdits d'entrer sur le sol éthiopien par les autorités de ce pays, a dit à VOA une source proche de l'organisation de cette rencontre entre l'Union africaine et l'opposition et la société civile burundaise qui ne reconnaissent pas les dernières élections.
Au Congo-Brazzaville, les dirigeants de l'opposition comptent transmettre aujourd'hui au président Denis Sassou Nguesso les conclusions de leur dialogue alternatif qui a pris fin mardi. À savoir un appel au chef de l'État lui demandant de ne pas convoquer un référendum pour changer la constitution. Les détails avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngusu.
Après 3 jours de concertation, les opposants gardent de ces travaux une seule ligne directrice, le non-changement de la constitution. Gilda Mounsara, participante et porte-parole de la plateforme qui lutte pour le respect de l'ordre constitutionnel.
Nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour le respect des principes de la démocratie et donc normalement la limitation du nombre de mandats. Et nous voulons dire au président de la République que la constitution qui régit notre pays, qui fait de lui président de la République, ne nous donne pas l'initiative de convoquer un référendum.
La moisson ainsi obtenue sera transmise au président Denis Sassou Nguesso pour qu'il en tire la conséquence. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Avec un salaire de base avoisinant.
C'était donc Nguesso, notre correspondant à Brazzaville. Au Gabon, le gouvernement va désormais verser chaque mois 12 milliards de francs CFA aux 90 000 agents du secteur public. La mesure fait partie d'un train de réforme des salaires décidé par le président Ali Bongo Ondimba. Le salaire moyen d'un fonctionnaire gabonais de la plus basse catégorie passe de 80 000 à 150 000 francs CFA. C'est ce que nous a raconté notre correspondant à Brazzaville, Jean-Rovis Davani. Et les Nations Unies, avant de passer aux Nations Unies.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les Nations Unies ont revu à la hausse leur projection d'augmentation de la population mondiale. Selon un rapport publié hier, la planète comptera plus de 11 milliards d'habitants en 2100. Camille Gros-Didier.
Il y a seulement 25 ans, en 1990, la Terre ne comptait que 5,3 milliards d'êtres humains. Ils sont aujourd'hui 7,3 milliards et seront 11,2 milliards en 2100, affirme le rapport sur les perspectives d'évolution de la population mondiale de l'ONU. Fait marquant, un petit nombre de pays, surtout en Afrique et en Asie, seront responsables de la croissance démographique d'ici le milieu du siècle. Entre 2015 et 2050, la moitié de la hausse de la population mondiale sera concentrée dans 9 pays. Inde, Nigeria, Pakistan, République démocratique du Congo, Éthiopie, Tanzanie, États-Unis, Indonésie et Ouganda. Dès 2022, l'Inde va dépasser la Chine pour devenir le pays le plus peuplé de la planète. Et en 2050, le Nigeria sera le troisième pays le plus peuplé du monde. D'ici à la moitié du siècle, 6 pays vont dépasser les 300 millions d'habitants : Chine, Inde, Indonésie, Nigeria, Pakistan et États-Unis. La hausse de la population est due à la baisse de la mortalité infantile, mais également à la prolongation de l'espérance de vie dans le monde. Elle est passée de 65 ans à la naissance à partir de 1990 à 70 ans depuis 2010 et va encore s'améliorer.
Le Premier ministre malaisien Najib Razak a déclaré aujourd'hui que le débris d'avion découvert cette semaine à La Réunion dans l'océan Indien venait probablement d'un Boeing 777. Mais à son avis, il reste encore à vérifier si ce fragment d'aide provient du vol MH370 de Malaysian Airlines qui a disparu le 8 mars 2014 sans laisser de traces alors qu'il effectuait la liaison entre Kuala Lumpur en Malaisie et Pékin en Chine. L'appareil avec 250 occupants à bord avait disparu des écrans radars une heure après son départ au-dessus de la mer de Chine méridionale. Et toutes les recherches par la suite n'ont jamais permis de savoir ce qui était arrivé. La Réunion est à 3500 km de l'endroit où l'on a perdu le contact avec le vol MH370. Retour sur la visite du président nigérien au Cameroun. Selon l'AFP, une dizaine de pêcheurs ont été égorgés au couteau par des islamistes de Boko Haram dans 3 villages proches de Baga, sur les rives du lac Tchad, dans le nord-est du Nigeria. L'attaque aurait eu lieu lundi. Voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes, avec toujours Eric Manelakiza sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.